Audible Studio présente Agatha Raisin Enquête, tome 22, du lard ou du cochon, de M.C. Beaton. Traduit de l'anglais par Esther Ménévis. Lu par Françoise Carrière. Ce livre est dédié à Shynet Goss, avec tous mes remerciements pour le soutien qu'elle a apporté à Target Ovarian Cancer. Chapitre 1. Agatha Raisin bifurqua avec lassitude sur la route descendant vers son village de Carsley dans les Cotswolds et s'arrêta brusquement. Une file de voitures s'étendait devant elle. Elle serra le frein à main. C'était la fin d'un mois de janvier très froid, anormalement froid. De part et d'autre de la chaussée, les grands arbres tendaient vers un ciel de plomb, leurs branches dénudées comme pour implorer le retour du printemps. Agatha espéra de toutes ses forces qu'il ne neigerait pas. Il ne fallait apparemment pas plus de 2 cm de neige pour que les routes soient fermées à la circulation. Le conseil municipal se plaignait d'avoir épuisé ses réserves de sel et les routes menant à Carsley étaient toutes très pentues. Il devenait dangereux de conduire. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» s'impatienta Agatha. Elle donna un coup de klaxon auquel le jeune conducteur de la Ford cabossée devant elle répondit par un doigt d'honneur. Avec un juron, elle descendit de voiture, marcha d'un pas décidé jusqu'à la Ford et tapa sur le carreau. « Quoi ?» demanda le jeune au teint cireux en baissant sa vitre. « C'est quoi le problème ?» Le jeune la toisa, remarqua le manteau coupé sur mesure à grands frais, les petits yeux ronds, accusateurs. L'accent snob ne lui avait pas échappé non plus. Il fronça les sourcils. « Des nids de poule !» répondit-il avec un haussement d'épaule. « Il répare des nids de poule !»« Et ça va prendre longtemps ?»« Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» s'agaça le jeune avant de remonter sa vitre. Agatha retourna au chaud dans sa voiture, furibarde. Elle s'était elle-même amèrement plainte aux autorités locales de l'état de la chaussée. Mais il y avait 2 autres routes qui menaient au village. Ils auraient au moins pu indiquer une déviation en attendant la fin des travaux. Elle envisagea de faire demi-tour. Mais elle savait, douée comme elle l'était pour la conduite, que, vu l'étroitesse de la chaussée, il lui faudrait beaucoup manœuvrer pour y arriver. Comme elle commençait à avoir la goutte au nez, elle attrapa un mouchoir en papier dans la boîte posée sur le siège passager et se moucha. Quelqu'un cogna à son carreau. Elle jeta un coup d'œil dehors. Un agent de police se penchait vers elle et la regardait. Courtaud et costaud, un nez aplati, de petits yeux porcins accusateurs, une peau au port dilaté. Agatha demanda en baissant la vitre. « Est-ce que ça va prendre encore longtemps, monsieur l'agent ?»«
Ça prendra le temps que ça prendra, ma bonne dame !»
répondit l'autre avec un fort accent du Gloucestershire. « Je vous verbalise pour avoir enlevé les mains du volant. »
Ça par exemple, vous êtes fou, j'étais juste en train de me moucher, j'ai mis le frein à main, je suis coincé ici, 60 livres d'amende. Jamais de la vie,
hurla Agatha.
Vous retirez en enfer avant que je paie cet argent.
On se verra au tribunal,
conclut-il en lui tendant un PV. Agatha resta assise un instant, tremblante de rage. Puis, elle respira à fond et commença à manœuvrer pour faire demi-tour. Mais les conducteurs des voitures qui s'étaient accumulés derrière elle avaient eu la même idée. Elle finit enfin par s'extirper de ce méli-mélo, juste à temps pour voir dans son rétroviseur que la file de voiture s'était mise en branle. Lorsqu'elle atteignit Lilac Lane et son cottage au toit de chaume, il avait commencé à neiger. De petits flocons compacts. « Oh diable, tous ces experts et leurs lamentations sur le réchauffement climatique » pensa-t-elle. Au moment où elle descendit de voiture, une bourrasque emporta son PV et l'envoya valser par-dessus la maison. Elle entra chez elle. Ses 2 chats, Hodge et Boswell, accoururent pour l'accueillir comme il le faisait seulement quand il voulait quelque chose à manger. Elle les nourrit, se servit un gin tonic, puis appela son ami l'inspecteur Bill Wong et se plaignit avec humeur de l'agent qui lui avait collé une contravention pour s'être mouché au volant. « Ça devait être Gary Beach, l'obsédé des objectifs », supposa Bill. « Vous êtes au courant que si nous n'atteignons pas certains objectifs, nous ne sommes pas promus. Ça lui monte un peu à la tête. » L'autre semaine, la mère d'un gamin de 9 ans qui habite dans une impasse à Mercer a dessiné des carrés à la craie sur le trottoir pour que son fils puisse jouer à la marelle. Eh bien, Beach a arrêté le gamin et l'a inculpé de vandalisme. Il a aussi inculpé de port d'armes dangereuses un tout petit bambin qui jouait avec un pistolet à eau. Sans parler d'un retraité d'âge avancé qui s'est fait arrêter dans le cadre de la loi antiterroriste pour avoir brandi une pancarte où il était écrit « Faites rentrer nos gars d'Afghanistan ». Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Le tribunal annulera sans doute la contravention, ou alors vous pouvez payer l'amende.
Jamais de la vie !
Comment vont les affaires ? Mal. La récession est vraiment sévère. Les gens n'ont pas d'argent, déplora Agatha en regardant par la fenêtre de la cuisine.
La barbe. Il neige de plus en plus. J'aurais dû investir dans des pneus neige ou un 4x4. Roy me rend visite ce week-end. J'espère que les routes seront dégagées d'ici là.
Roy Silver avait travaillé pour Agatha à l'époque où elle dirigeait sa propre boîte de communication à Londres. Une entreprise prospère qu'elle avait vendue pour prendre une retraite précoce et venir s'installer dans les Cotswolds. Mais après avoir élucidé plusieurs affaires de meurtre, elle avait décidé de créer sa propre agence de détective. Bill lui promit d'essayer de passer la voir pendant le week-end, puis raccrocha. Elle appela son agence. Elle n'avait pas beaucoup d'employés. Patrick Mulligan, un policier à la retraite, Phil Marshall, un vieil habitant de Carsley, la jeune Tony Gilmore, et enfin une secrétaire, Mrs. Friedman. Femme d'affaires avisée, Agatha avait vu venir la récession bien avant la plupart des gens et renoncé à engager plus de monde. Mais il manquait quelqu'un dans son personnel, et cette absence pesait sur sa conscience. Quelques mois plus tôt, un jeune et brillant détective de l'équipe, Simon Black, avait paru tomber amoureux de Tony. Se persuadant qu'elle agissait dans leur propre intérêt, elle lui avait demandé d'attendre 3 ans, au prétexte que Tony était trop jeune. Las, se croyant snobée par son collègue, la jeune femme s'était retournée contre lui, si bien que, à la grande horreur d'Agatha, Simon s'était engagé dans l'armée et combattait maintenant en Afghanistan. Ce fut Tony qui décrocha le téléphone. Elle annonça que Mrs. Friedman et Phil Marshall étaient rentrés chez eux de peur que la couche de neige n'épaississe. La jeune, blonde et magnifique Tony suscitait souvent des élans de jalousie chez sa patronne, mais il fallait bien reconnaître que c'était une brillante enquêtrice. « Qu'est-ce qu'on a en attente ?» s'enquit Agatha. « 2 adultères, 4 animaux perdus et 2 ados disparus. »« Il me semble qu'hier encore, je disais que je ne voulais plus jamais m'occuper de chats perdus. » se lamenta Agatha avec un soupir. « Mais on a besoin d'argent. »
C'est de l'argent facile. Les propriétaires ne pensent presque jamais à aller voir à la fourrière. Je n'ai qu'à m'y rendre avec la photo qu'ils m'ont donnée de Médor au Trucmuche. Je récupère la bestiole, j'appelle les heureux propriétaires et je dis « Pas ici la monnaie !»
Roy vient me voir ce week-end et Bill passera peut-être. Ça vous dit de vous joindre à nous? Je pourrais trouver quelque chose d'intéressant à faire.
J'ai déjà un rendez-vous.
Avec qui?
Paul Finlay.
Comment l'avez-vous rencontré?
Résistant à la forte envie de rétorquer à son inquisitrice patronne de s'occuper de ses oignons, Tony expliqua à contre-cœur.
« Je prends des cours de français le soir maintenant qu'on a moins de travail à l'agence. C'est le prof. »«
Quel âge ?»«
Il faut que je vous laisse. Il y a l'autre téléphone qui sonne. »
Après avoir accroché, Agatha resta un moment assise à se faire du mauvais sang. Tony avait un faible pour les hommes plus âgés qu'elle, et elle s'était déjà attirée des ennuis par le passé. Agatha commença à éplucher le journal local laissé sur la table de la cuisine par sa femme de ménage, Doris Simpson, à la recherche de distractions pour le week-end. Son regard tomba sur l'annonce d'une fête à Winter Parva, village situé à une 30 kilomètres de Carsley. Elle n'y était allée qu'une fois. C'était un village touristique des Cotswolds, avec des boutiques de souvenirs, une halle médiévale et des cottages couverts de chaume. Selon l'article, comme les commerces locaux n'avaient pas fait d'aussi bonnes affaires que d'habitude à Noël, le conseil municipal avait programmé une manifestation exceptionnelle en janvier afin d'attirer les visiteurs. Le samedi, on allait faire rôtir un cochon sur l'ancien pré communal devenu la place du village. Les habitants étaient vivement encouragés à se déguiser en costume traditionnel. Le groupe de danse folklorique de Winter Parva allait donner un spectacle, de même que la fanfare du coin et la chorale du village. On attendait la venue pour l'occasion de 2 cars remplis de touristes chinois.
Ça fera l'affaire, songea Agatha, à condition que je ne reste pas coincée dans le village à cause de la neige.
Comme elle avait faim, elle farfouilla dans son congélateur en quête d'un plat à réchauffer au micro-ondes. Tout à coup, toutes les lumières s'éteignirent, coupure d'électricité. Elle se souvint que le pub du village, le Red Lion, possédait un générateur. Alors, elle enfila un pantalon, une paire de grosses chaussures et une parka à capuche, puis partit à la recherche de son dîner. Le pub était plein d'habitués. Après avoir commandé au comptoir un plat de lasagne avec des frites et un demi de lager, elle chercha du regard une table libre. C'est alors qu'à sa grande stupéfaction, elle aperçut son amie, l'épouse du pasteur, Mrs. Blugsby, assise toute seule dans un coin, fixant d'un air maussade un petit verre de sherry. Agatha s'empressa de la rejoindre. Il devait y avoir un problème. Mrs. Blugsby ne mettait jamais les pieds au pub, sauf pour des événements de collecte de dons. Quelques mèches grises s'échappaient de son chignon vieillot.
La fatigue se lisait sur son visage habituellement bienveillant. Elle portait un manteau en tweed miteux, par-dessus un pull délavé, un cardigan et une jupe en tweed. Mais peu importait sa tenue, songea une fois de plus Agatha. Son amie portait le mot « dame » gravé sur le front. Toutes deux s'étaient toujours appelées par leur nom de famille, comme c'était la tradition dans la société des dames à laquelle elles appartenaient l'une et l'autre. « Comme c'est étrange de vous voir ici !» dit Agatha. « Où est votre mari ?»«
Je l'ignore, et je m'en contrefiche, » répondit Mrs. Blixby.
« Asseyez-vous donc, Mrs. Raisin. »«
Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Mrs. Blixby parut reprendre du poil de la bête. Elle sourit faiblement.
« Oh, ce n'est rien. Vous avez vraiment l'intention de manger ça ?»
La serveuse avait posé une assiette de lasagne et de frites devant Agatha.
« Bah oui, où est le problème ?»
s'exclama Agatha en enfournant prestement une grosse bouchée. Décidément, son amie avait les papilles gustatives d'un vautour, pensa Mrs. Blixby. Pourtant, il arrivait que, face à elle, la femme du pasteur se sente diminuée. Bien qu'âgée d'une petite cinquantaine d'années, Agatha était resplendissante de santé et ses cheveux châtains, certes teints par une main experte, luisaient comme de la soie.
Rien, ce n'est pas possible,
insista Agatha en attrapant le flacon de ketchup pour en arroser généreusement ses frites.
Je me fais sans doute des idées, répondit Mrs. Blixby d'un air las.
Votre instinct ne vous a jamais trompé. Allez, videz votre sac.
Un sanglot déchirant sortit de la gorge de Mrs. Blixby comme les hoquets que poussent les enfants après avoir pleuré longtemps.
Je pense qu'Alf a une liaison. Voilà. Vous faites couler du ketchup.
Oh, pardon!
Agatha reposa dans son assiette une frite dégoulinante de sauce.
Votre mari? Avoir une liaison? N'importe quoi!
Vous avez raison. C'est idiot de ma part de penser ça.
Non, non, je n'aurais pas dû dire ça. Mais enfin, qui voudrait de lui?
Lâcha Agatha avec son manque de tact habituel. L'épouse du pasteur se hérissa.
Permettez-moi de vous dire qu'en tant que pasteur du village, Alf a souvent été la cible de paroissiennes prédatrices.
Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il a une liaison? Du rouge à lèvres sur son col romain?
Rien de tel, non. C'est juste qu'il s'est mis à quitter la maison en douce, en tenue civile, et il refuse de me dire où il va.
Il s'est acheté des sous-vêtements neufs récemment?
Non, c'est moi qui les lui achète.
Écoutez, je vais tirer ça au clair, histoire de vous rassurer. Gratis!
Non, ne faites pas ça. S'il s'apercevait que vous le filez, il serait furieux.
Il ne s'apercevra de rien, je suis une très bonne détective.
Je vous défends de faire quoi que ce soit, insista Mrs. Blixby d'un air sérieux. C'est promis?
Promis, céda Agatha, non sans croiser puérilement les doigts derrière son dos.
Pendant la nuit, un vent chaud venu de l'ouest fit fondre la neige. Puis le vent vira au nord et transforma les routes en patinoires. Agatha se réveilla le matin de mauvaise humeur. Comment allait-elle bien pouvoir sortir du village, hein? Le retour de l'électricité était une piètre consolation. Mais alors qu'elle prenait son petit déjeuner habituel, constitué d'un café noir et de cigarettes, elle entendit vaguement un bruit au bout de Lilac Lane. Un bruit qu'elle n'avait pas entendu depuis un moment. Elle enfila ses chaussures, son manteau, et fonça au bout de la ruelle. Un camion de sablage avançait lourdement à travers le village en répandant du sable et du sel sur la chaussée. Agatha rentra chez elle en vitesse, se maquilla et s'habilla pour aller travailler. Elle sortait de Lilac Lane lorsqu'elle reconnut la voiture du pasteur sur la route devant elle.
« Un petit coup d'œil ne fera pas de mal !» se persuada-t-elle.
Elle se laissa doubler par la voiture qui la suivait, puis roula sans perdre de vue la voiture du mari de Mrs. Blixby. Arrivée à Hancombe, un village voisin de Carsley, il se gara dans la cour de St. Mary, une grande église catholique. Au XVIIe siècle, Hancombe était resté fidèle au roi Charles Ier, alors que partout autour, les protestants puritains soutenaient Cromwell. Poussée par la curiosité, Agatha se gara sur le bord de la chaussée, puis remonta l'allée longeant le cimetière et pénétra dans l'église. Dans la pénombre, elle distingua seulement la mince silhouette de Mr. Blixby qui entrait dans un confessionnal et fermait la porte. Elle plongea derrière un banc lorsqu'un prêtre apparut. Il entra à son tour dans le confessionnal.
Il faut absolument que je sache ce qu'il raconte, se dit-elle.
Elle ôta ses chaussures, se dirigea à pas de loup vers le confessionnal dans lequel le pasteur s'était engouffré, colla son oreille contre la cloison et ouvrit grand ses oreilles.
« Non mais qu'est-ce que vous faites ?»
tonna une voix de stentor.
Effrayée, Agatha aperçut un homme qui venait d'entrer dans l'église. Elle ferma illico les yeux, s'écroula sur le sol. La porte du confessionnal s'ouvrit et Mr. Blixby et le prêtre en sortirent.
« Qu'est-ce qui se passe ?» fit la voix grêle du prêtre.
« Quoi ? Qu'est-il arrivé ?» demanda faiblement Agatha en ouvrant les yeux. « J'ai eu un vertige, j'ai vu Mr. Blixby entrer, je voulais lui demander de l'aide. »
« Elle écoutait !» affirma aigrement un homme maigre. « Je connais cette femme !» fit Mr. Blixby. « Mrs. Raisin, suivez-moi dehors !»
Agatha se leva. Personne ne l'aida. Elle remit ses chaussures et, malheureuse comme les pierres, suivit le pasteur qui marchait d'un pas furieux en direction de la sortie. Une fois dehors, Mr. Blixby ordonna brusquement.
« Montez dans ma voiture, Mrs. Raisin. Vous avez quelques explications à me donner. »
Agatha s'installa sur le siège passager. Il s'était mis à pleuvoir doucement, de petites larmes de pluie.
« Bien, j'attends vos explications, affreuse bonne femme que vous êtes !»
attaqua le pasteur, qui ne l'avait jamais aimée et ne comprenait pas l'affection que son épouse avait pour elle.
« Mrs. Blixby ne m'adressera plus jamais la parole !»
songea tristement Agatha, comprenant qu'elle allait devoir dire la vérité.
« Eh bien, voilà, Alf. Je peux vous appeler Alf ?»«
Non. Soit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré votre femme au pub hier soir. » Elle avait pleuré. Elle pense que vous avez une liaison.
C'est ridicule. Quoique, quand j'y réfléchis, il m'est arrivé de devoir repousser les avances de quelques paroissiennes enamourées au fil des ans.
J'ai promis de ne pas fouiner, avoua Agatha.
Autant promettre de ne pas respirer, dans votre cas.
Très juste. J'en ai assez de me sentir coupable.
Qu'est-ce que vous alliez fiche dans le confessionnal d'une église catholique nom de Dieu ? J'avais besoin de conseils spirituels.
Ne me dites pas que vous avez perdu la foi.
Non, pas du tout. Mais vous savez qu'à Carsley, nous utilisons le livre de la prière commune et la Bible du roi Jacques.
Oui, répondit Agatha, qui ne l'avait jamais remarqué.
Ce sont des textes magnifiquement écrits. Ils sont comparables à du Shakespeare. Or, notre évêque m'a ordonné de les remplacer par leur traduction moderne. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. J'ai senti que j'avais besoin de m'épancher auprès d'un ecclésiastique d'une autre confession.
Pourquoi diable n'en avez-vous rien dit à votre femme ?
Il a fallu que je lutte avec ma conscience. J'ai même songé à entrer dans l'église catholique.
En faisant vœu de célibat ?
Le Vatican envisage de prendre des dispositions pour des gens comme moi.
Mais vous ne parlez donc pas avec votre épouse ?
En matière de spiritualité, je préfère me débattre seule avec mes problèmes.
Agatha vit comment elle pourrait se tirer de sa fâcheuse situation. De ses petits yeux d'ours, elle lança un regard rusé au pasteur.
Je pourrais vous arranger ça. Vous ? Vous vous fichez de moi ?
Non.
Mais seulement si vous la fermez et que vous m'écoutez. L'évêque n'ira pas contre les vœux des paroissiens. Tout le village signera une pétition pour que les choses restent comme elles sont et il enverra à votre hiérarchie.
C'est du gâteau.
Je m'en charge si vous me promettez de ne pas dire à Mrs. Blixby que j'ai quoi que ce soit à voir là-dedans. Je vais arranger ça avec l'épicerie du village. Tout le monde y fait ses courses quand le temps est mauvais. Je demanderai à Mrs. Tuchel, la nouvelle propriétaire, de dire que c'est elle qui a eu l'idée.
Vous, parlez-en dans tout le village dès maintenant, en commençant par votre femme.
Bien sûr, si j'apprends que vous lui avez soufflé un seul mot de mon implication dans cette histoire, vous vous débrouillerez sans moi, mon vieux. Pasteur ou pas, jamais vu un idiot pareil.
Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ? Demandait plaintivement Mrs. Blixby une demi-heure plus tard après avoir écouté son mari s'expliquer.
Au début, j'ai voulu me débattre seule avec ce problème. Mais en rentrant, je suis passée à l'épicerie et j'en ai parlé, comme ça. Les gens du village m'ont été d'un grand soutien. Ils vont envoyer une pétition à l'évêque.
Est-ce que Mrs. Raisin a quelque chose à voir là-dedans ?
Bien sûr que non, affirma le pasteur en s'adressant au feu dans la cheminée du salon.
Seigneur, ce n'est qu'un pieux mensonge, assura-t-il à son créateur.
Tu m'imagines lui demander de l'aide ?
Agatha passa le plus clair de sa journée à faire du porte-à-porte dans le village afin de mobiliser les gens autour du pasteur et de les inciter à aller signer la pétition à l'épicerie. Une bonne partie des habitants de Carsley étaient de nouveaux venus qui n'allaient à l'office qu'à Pâques et à Noël, mais avaient très à cœur de faire des trucs de villageois, comme il faut, selon les termes utilisés par une matrone rondelette. Lorsqu'elle arriva à son agence en fin d'après-midi, Agatha tomba sur Tony qui partait au bras d'un homme grand et barbu, du genre gentleman farmer.
« Je vous présente Paul Finlay, » dit Tony.
« Ah, voici donc la grande détective !» s'exclama le dit Paul.
Il approchait la quarantaine, jugea Agatha, et arborait un air d'une condescendance exaspérante. Dans son visage taillé à la serpe, ses yeux pétillants de malice étaient de ceux qui trahissent invariablement un manque total d'humour.
« On sort pour la soirée !»
se hâta d'enchaîner Tony.
« Bye !»«
Minute !» fit Agatha. « Roy arrive vendredi soir et samedi, nous allons à Winter Parva, où on fait retirer un cochon. Ça vous dit de nous accompagner, pas allez-vous ? Venez à mon cottage et je vous y conduirai, parce que ça va être un enfer pour se garer. »«
Un cochon rôti ?»
s'esclaffa Paul. « Comme c'est pittoresque, bien sûr que nous viendrons. »
« Bien, les festivités débutent à 18h, mais j'aimerais arriver un peu plus tôt. Je vous attends vers 16h pour prendre un verre. Ensuite, on se mettra en route. »
Agatha regarda le couple s'éloigner. La mince et jeune silhouette de Tony paraissait minuscule et vulnérable à côté de celle de Paul.
« Pas du tout l'homme qu'il lui faut, » maugréa-t-elle.
« Quel con !» Une femme qui passa lui lança un regard inquiet. Agatha expédia les affaires courantes à l'agence avant de reprendre le chemin de chez elle. Elle approchait de Lyle Klein lorsqu'une voiture de police se rabattit devant elle, lui barrant le passage.
Elle appuya à fond sur la pédale de frein et regarda dehors.
L'agent de police, qui l'avait verbalisé pour s'être mouché, avançait lourdement vers elle. Elle baissa sa vitre.
« Quoi encore ?»
demanda-t-elle.
« J'avais un radar à la main sur la route, là. Et vous faisiez du 52 à l'heure. Ça va vous coûter 3 points de permis et une amende pour excès de vitesse. »
Agatha s'apprêta à l'enguirlander, mais se rendit compte à temps qu'il allait sans doute lui coller une amende pour outrage à agent de police. Il lui fit alors la morale sur les dangers de la vitesse, et comme elle savait qu'il cherchait à lui faire perdre son calme, elle l'écouta patiemment jusqu'à ce qu'il abandonne. Quand il fut enfin reparti, elle fit demi-tour pour se rendre à l'épicerie, où elle fit part à un auditoire captivé des iniquités de la police en général, et d'un de ses membres en particulier.
« J'aimerais le tuer !» fulmina-t-elle. « Puisse-t-il retire lentement sur une broche en enfer ?»
C'est par un temps glacial qu'Agatha récupéra Roy Silver le vendredi soir à la gare de Morton in Marsh. Il portait un pantalon noir et un pull tout aussi noir, sous une veste écarlate à la trame mouchetée d'or. Il s'était complètement rasé les cheveux, et Agatha pensa lugubrement que son ami, avec son crâne dégarni et son blazer rouge, avait l'air d'un croisement entre un poulet plumé et un candidat auditionnant pour un poste d'animateur dans un camp de vacances Butlin.
« Mets le chauffage !»
exigea Roy en montant en voiture.
« Je gèle !»«
Tu m'étonnes. C'est quoi ce crâne rasé ?»«
La mode ?»
rétorqua Roy.
« En plus, ça renforce la chevelure. C'est temporaire.
Je te prêterai des vêtements chauds. »
« T'es fringues sur moi, chérie ?»
répondit son jeune ami avec hargne.
« J'aurais l'air de porter une tente. C'est vrai, quoi ? On pourrait en mettre deux comme moi dans une femme comme toi. Je ne suis pas grosse !»
lança Agatha d'une voix rageuse.
« C'est toi qui es d'une maigreur maladive !»
Charles a laissé des habits à lui dans la chambre d'amis. Sir Charles Fress était un ami d'Agatha qui avait tendance à prendre son cottage pour un hôtel. Rebelle jusqu'au bout, Roy persista à dire que ses vêtements étaient tout à fait adaptés, mais en arrivant chez Agatha, ils s'aperçurent qu'il y avait une nouvelle coupure de courant et qu'il faisait froid dans la maison. Pendant qu'Agatha allumait le feu dans le séjour, Roy suspendit sa veste bien-aimée dans la penderie de la chambre d'amis, se demandant comment il était possible de ne pas adorer une telle création. Puis, il enfila un des pulls en cachemire de Charles. Une belle flambée brûlait dans la cheminée lorsqu'il rejoignit Agatha.
« Combien de temps ça dure, ces coupures de courant »
demanda-t-il.
« Pas longtemps, généralement. Il y a un problème à la centrale qui alimente cette partie du village.
Des projets pour le week-end ?
Nous allons voir retirer un cochon à Winter Parva demain.
Rien à faire, je suis végétarien.
Depuis quand ?
S'étonna Agatha.
« Oh, un mois !»
répondit Roy d'un air vague.
« Tu n'as pas fait de régime ? Tu t'es affamé ?»
l'accusa Agatha.
« J'ai acheté des steaks pour le dîner. Pas question que j'y touche. Un cochon rôti ? Tu veux dire qu'ils vont le faire tourner sur une broche comme dans les films historiques ?
Oui.
Burk, burk, burk et burk, Aggie. Ça va être dégoûtant. »
Mais le lendemain, après l'arrivée de Tony et de Paul et le retour de l'électricité capricieuse, Roy décida que tout valait mieux que de rester seul au cottage. Bill Wong avait appelé pour prévenir qu'il avait un empêchement. Juste au moment où il prenait un verre, Charles débarqua, coûteusement habillé, comme à son habitude, de vêtements chics et décontractés. Il avait des traits fins et bien dessinés, et des cheveux bien coupés. Agatha ne savait jamais trop ce qu'il pensait d'elle. Il se servit un whisky, puis il mit les pieds dans le plat en demandant à Roy avec compassion s'il avait un cancer. Et quand le jeune ami d'Agatha lui répondit que non, il fit remarquer
J'étais prête à vous pardonner d'avoir mis un de mes pulls, mais si vous n'êtes pas malade, je trouve vraiment que vous auriez pu me demander mon autorisation.
C'est moi qui lui ai dit qu'il pouvait emprunter quelque chose, intervint Agatha. Je ne t'ai pas présenté Paul Finlay?
L'oncle de Tony?
Non, juste un ami, corrigea Agatha. Paul s'était hérissé. L'accent aristocratique de Charles réveillait ce qu'il y avait de pire chez lui. Son léger accent de Birmingham s'intensifia à mesure qu'il les gratifiait tous d'une longue diatribe sur l'injustice du système de classe britannique et le parasitisme de l'aristocratie qui vivait sur le dos des pauvres.
Charles Swellwey jubila intérieurement Agatha. Tony doit se rendre compte que ce type est horrible. Mais la jeune femme buvait les paroles de Paul, des étincelles dans les yeux.
Charles attendit que Paul soit à court d'arguments pour déclarer posément.
Quel ramassis de conneries démodées! Quand est-ce qu'on y va?
Finissez vos verres, ordonna Agatha. Je veux être sûre de trouver où me garer. Vous allez être un peu serré dans ma voiture.
J'emmène Roy, proposa Charles.
Il te faut un manteau, Roy, fit remarquer Agatha.
Tu trouveras mon barbeau accroché dans l'entrée, prends-le. Je pourrais mettre ma veste, tenta Roy. Tu vas geler. Allez, en route tout le monde.
Sur le chemin de Winter Parva, de fines traînées de brume s'enroulaient autour des arbres. Ils durent se garer à l'extérieur du village, faute de place libre dans le bourg. Paul, pressé d'avoir Tony pour lui tout seul, annonça qu'ils allaient faire du lèche-vitrine avant de rejoindre les autres sur la place du village, à l'heure du cochon rôti. Agatha, Charles et Roy marchèrent jusqu'au pub le plus proche et pénétrèrent dans la chaleur bienfaisante du bar.
Il va falloir faire quelque chose pour Paul, dit Charles. À mon avis, Tony est encore vierge et c'est atroce de penser qu'elle va perdre son pucelage sous les cuisses poilues de ce casse-pied de première.
Il va peut-être la demander en mariage, suggéra Roy.
Je pense que je vais enquêter un petit peu, décida Agatha.
Je parie soit qu'il est marié, soit qu'il l'a été. Comment Tony peut-elle ne pas voir quel raseur c'est? Comment peut-elle l'écouter débiter toutes ces absurdités sur les classes?
Peut-être que ça touche une corde sensible, avança Charles. N'oublie pas qu'elle n'a pas eu une enfance facile. Peut-être qu'elle ne trouve pas sa place dans le grand ordre de l'univers. Ce genre de propagande peut être très séduisante. Mais où est-ce qu'elle a bien pu le rencontrer?
À des cours du soir de français, lui répondit sombrement Agatha. C'est lui le prof.
On aurait pu se déguiser à Guy, se plaignit Roy, qui regardait autour de lui les consommateurs habillés en costumes médiévaux.
Agatha consulta sa montre. On ferait mieux de se diriger vers la place du village. Je veux voir comment ils préparent le cochon à rôtir.
Le brouillard s'était épaissi. À voir des villageois en costume surgir de la brume pour y disparaître à nouveau, on aurait pu se croire revenu au Moyen-Âge s'il n'y avait eu toutes ces voitures garées. Deux hommes, badigeonnés d'huile, un énorme cochon embroché au-dessus d'un lit de charbon de bois brûlant. Certains villageois étaient munis de torches. Au moment où le brouillard s'éclaircissait un peu, Agatha distingua clairement sur l'arrière-train de l'animal un tatouage représentant un cœur percé d'une flèche et le nom Amy tracé en lettres tarabiscotées. Son regard glissa jusqu'aux pattes dodues coupées au-dessus du genou.
« Stop !»
hurla-t-elle à plein poumon. Les deux hommes arrêtèrent de tourner la broche et la regardèrent avec de grands yeux.
« Les cochons ne portent pas de tatouage !» expliqua-t-elle.
Ils scrutèrent le dessin suspect.
« Il y a quelqu'un qui a fait une petite blague, on dirait !» fit l'un d'eux.
Mais Agatha avait sorti de son sac une puissante petite lampe torche avec laquelle elle examinait la tête du cochon.
« La tête est cousue !» constata-t-elle.
« Oh non ! Je pense que ce corps est celui d'un homme !»
« Appelez la police !»